Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
L'Intégral Sport jusqu'à 20h sur RMC, les 19h tout pile. Soyez bienvenus si vous venez de nous rejoindre, et jusqu'à 19h30. On va monter en puissance avec Stephen Brun sur cette demi-finale de l'Euro qui attend l'équipe de France féminine. Les Bleus qui, je vous le rappelle, seront opposés à l'Allemagne. Elles rêvent d'atteindre une première finale internationale. On en parle dans un instant avec Jeannot Rességuier à Milton Keynes. Et puis on va accueillir Bérangère Sapovic, ancienne gardienne de l'équipe de France et qui sera notre invité. Et d'ailleurs, on vous rappelle cet exclu RMC. Dans un peu moins de 15 minutes, Anthony Reich, au bord de la pelouse, sera en direct avec une joueuse de l'équipe de France.
C'est pas qui, surprise,
à moins
surprise.
De 2h du coup d'envoi.
Qui passe le long de la ligne, hop, il va tendre le micro.
Allez, dis-nous, tu veux qui?
Je voudrais Delphine Cascarino.
Allez, Anto, à toi de jouer, mon vieux. À 19h30, on aura un invité, ce sera Jimmy Gressier, Jimmy Espoir de l'équipe de France d'athlétisme en vue des Jeux de Paris en 2024. Il a terminé 11e du 10 000 mètres au Mondiaux de Eugene aux États-Unis. Et puis un autre invité à 19h45, un Orléanais, mon petit Stephen, Pierre Roland. Coureur français de la formation BNB Hotel, KTM, attaque de Pierre Roland. Voilà, il sera avec nous.
On n'a pas entendu beaucoup.
Ah, malheureusement, non. Il viendra nous raconter son Tour de France difficile et il abordera avec nous le virage qu'est en train de prendre son équipe. On vous rappelle que BNB sera soutenu la saison prochaine par la ville de Paris. C'est reparti pour l'Intégral Sport. Et c'est donc un défi de taille qui attend notre équipe de France. Les Bleus, qui n'avaient plus passé le stade des quarts de finale en compétition depuis plus de 10 ans, vont défier l'Allemagne qui, de son côté, Stephen possède un palmarès long comme le bras, un titre olympique, 2 titres de championne du monde et 6 euros d'affilée remportés entre 1995 et 2013. Ça donne le tournis, Jeannot Rességuier. Salut Jeannot.
Ah, c'est clair que ça calme, comme on dirait, dans le langage du football et dans le langage du sport. Surtout si tu rajoutes qu'en plus, pour la première fois depuis l'histoire d'un championnat d'Europe créé en 1977 avec différentes formules, l'Allemagne arrive en demi-finale sans avoir encaissé le moindre but. Ça calme encore plus.
Arrête, tu es anxiogène, Jeannot, tu nous vends la peur.
Non,
je sais pas
réaliste.
Pourquoi j'ai fait ça. Eh ouais, j'ai lancé Jeannot, qui est un peu le chat noir.
Jeannot, il aurait pu
mais
nous dire.
C'est pas vrai, Jeannot, c'est pas vrai. J'étais à Marseille en 2016.
T'aurais pu nous dire qu'après le titre olympique 2016, les Allemandes défaitent en quart à l'Euro contre le Danemark et défaitent en quart au Mondial 2019 contre la Suède. Ça nous aurait donné des motifs d'espoir.
Ouais. Je peux te rajouter aussi que la France n'a jamais battu l'Allemagne dans une compétition internationale.
Mais
tu veux jouer au ping-pong? On va jouer au ping-pong, il n'y a pas de problème.
On les a battus 2 fois sur les 3 dernières confrontations, dont la dernière en 2021.
C'était des matchs amicaux, effectivement. Mais ce soir, on va les taper, il n'y a pas de souci.
Merci. Grosse ambiance derrière toi, la dance des années 90, hein, Jeannot.
Oui, parce que là, justement, j'allais te dire, le DJ est à fond. Parce que là, le stade n'est pas encore totalement ouvert. Il ouvre là, petit à petit au public. L'UEFA nous a annoncé hier 28 000 spectateurs dans ce MK Don Stadion. Au passage, c'est une équipe de League One, hein, de 3e division anglaise. Ils ont un stade, c'est un bijou. Il est posé au milieu d'une zone commerciale avec des restaurants, avec des boutiques. C'est une vraie zone d'activité. Et ce stade-là, dans lequel a évolué quand même le meilleur buteur de la Ligue 2 l'an passé, Rhys Ilie, où il a été recruté par le TFC, ce stade-là est un bijou. Et les filles, les joueuses de l'équipe de France vont découvrir, elles l'ont découvert hier en séance d'entraînement à huis clos, mais elles vont découvrir une ambiance x3 par rapport à Rotterdam, par exemple.
Quiz sur votre culture sportive et footballistique. Oh. Un international anglais qui a été formé justement à Milton Keynes, là, qui est encore en activité.
Un international anglais, Harry Kane.
Non, passé par Tottenham.
Calvin Levert.
Bon, vous y êtes pas. Dele Alli. Dele Alli qui est formé à Milton Keynes.
Ok.
Et voilà. Non, bah, dis-le si c'est un quiz.
Bah, s'il y a vécu.
Bah, en fait, j'ai préféré.
Je le félicite. Hein,
j'ai préféré. Alors,
comme ville nouvelle, horrible, tu fais pas mieux. Hein.
On dirait le Portel, d'après toi.
Pas d'après. Heureusement que t'as pas dit d'après Stephen.
Stephen, je vais plus t'engager. Bon, Jeannot, allons-y tout de même sur les infos compo parce que Anthony Reich est en train de bosser. C'est la spécificité de Corinne Diacre. Elle dévoile ses compositions d'équipe à la dernière minute. Là, on a des certitudes a priori.
On part sur les mêmes avec Pauline Perromagnan dans le but. Mbok et Renard en charnière. Ça, c'est aussi intéressant de voir que les deux Lyonnaises vont être alignées pour la deuxième fois consécutive. Périssé à droite, Kershaoui à gauche, le milieu de terrain, toujours toujours Bilbao, Gueyoro, Toletti. Les trois offensives, Diani, Mallard et Cascarino. Et un peu comme on fait chez les garçons avec Didier Deschamps, ça va beaucoup permuter. Ça va beaucoup permuter parce qu'elles ont beaucoup travaillé justement la possibilité de positionner Diani dans l'axe pour bouger la charnière centrale Egering et Andrich. Et puis on peut aussi voir Cascarino venir dans ce couloir droit. Donc il y aura ça à surveiller dans l'animation offensive. Pourquoi on parle de l'animation offensive? Parce que l'équipe de France, 33 tirs contre les Pays-Bas et les Allemands n'ont subi que 7 tirs depuis le début de la compétition, dont 3 frappes sur les poteaux. C'est vrai en quart de finale pour les Autrichiennes. Mais ça sera vraiment la clé, elle sera là. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être peu d'occasions pour les Françaises et cette fois-ci il va falloir les mettre au fond.
Stephen Brun, oui. Est-ce que Corinne Diacre a raison d'insister avec bien son sûr. 11 et de garder cette possibilité, cette joker sur le banc, bien justement sûr. Ces impacts playeuses que sont Selma Bacha notamment et Clara Matteo?
Bon, je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle a raison parce que mine de rien, ce 11-là, il a plutôt bien fonctionné. Alors on va retenir qu'il y a une victoire malgré tout en prolongation contre les Pays-Bas, mais il y a une écrasante domination et que ce 11-là a été très bon, bien sûr, sublimé par les entrées en jeu des super subs, parce qu'on veut les appeler les super subs. Mais
oui, Corinne Diacre, en Angleterre.
Mais Corinne Diacre a confiance en ce 11-là, a confiance en ces joueuses-là qui ont aujourd'hui une vraie alchimie parce qu'elles ont l'habitude de jouer ensemble. Et le fait de voir les trois devant capables de bouger et d'avoir une certaine liberté peut désarçonner la défense allemande. Donc, Corinne Diacre, elle joue la sécurité. Corinne Diacre, t'attends pas de la fantaisie avec Coco. Hein, Coco, c'est terre à terre, Coco. Voilà.
Coco, oui, oui. On peut rajouter le fait que justement en s'appuyant sur le banc des remplaçantes avec Bacha, avec Matteo pour ne citer qu'elle, mais il y en aura d'autres parce que il y a ces 48 heures supplémentaires de récupération pour les Allemandes et que en partant avec le même 11 que face aux Pays-Bas, il y aura certainement du coaching et peut-être du coaching plus rapide que prévu. Sait-on jamais autour de l'heure de jeu bien sûr, par rapport notamment au fait qu'il va y avoir énormément d'impact physique dans ce match.
Je vous propose d'écouter Wendy Renard qui était en conférence de presse hier et qui parlait justement de cet adversaire difficile à manœuvrer, l'Allemagne. Wendy Renard qui s'exprimait sur l'adversaire du jour.
Ça va être un combat demain. C'est une grande nation, ça va se jouer à l'efficacité forcément. Faut rien changer. C'est sûr que c'est une grande nation et que par le passé on a toujours dit la supériorité allemande. Après, il y a pas de complexe à avoir. On est en demi-finale. Et je pense qu'elles sont pas non plus contentes de nous jouer. Donc ce sera à nous d'être ensemble, comme on l'a fait depuis le début de cette compétition, et d'être déterminé, de régler les 2-3 choses qui n'ont pas été et être encore plus efficace. Mais France-Allemagne, c'est toujours des gros matchs et c'est tout ce qu'on aime. Donc il faudrait être au rendez-vous et être costaud.
Et oui, parce que Jeannot, l'efficacité offensive, c'est pas notre point fort. En revanche, l'efficacité défensive de l'Allemagne est impressionnante. Les Allemands n'ont pas pris un but depuis le début de l'Euro.
4-0 contre le Danemark, 2-0 contre l'Espagne, 3-0 contre la Finlande, 2-0 contre l'Autriche. C'est simple, Fromms, la gardienne de but de Francfort et de l'équipe nationale, elle a été sauvée, je le disais tout à l'heure, par les montants, et ça c'est quand même pas anecdotique, contre l'Autriche en première période. Et elle a deux arrêts déterminants qu'elle réalise, un contre Brune face au Danemark et un contre Mariona, contre l'Espagne. Donc voilà, ça veut tout dire. Et simplement 7 tirs subis depuis le début de la compétition.
C'est ça qui est impressionnant.
C'est costaud, c'est solide, c'est un bloc.
Ça,
voilà.
Ça veut peut-être dire aussi qu'elles ont peut-être pas rencontré des forces offensives comme peuvent être la France. Aussi.
Un peu l'Espagne, même si l'Espagne était privée de Putellas, la Ballon d'Or ou d'Hermoso, mais elles sont quand même allées jusqu'au quart de finale. Donc quelque part, c'est peut-être cette équipe-là qui a un peu bousculé cette formation allemande, même si encore une fois, l'Autriche, souvenez-vous, avait réalisé une très très bonne première période avant de s'effondrer en deuxième.
Jeannot, on voulait parler, on parle à chaque fois qu'il y a un match de l'équipe de France d'une joueuse qui compose cette équipe. On voulait parler aujourd'hui de la gardienne de but, évidemment Pauline Perromanien, joueuse de la Juventus Turin, qui elle aussi aura un rôle a priori prépondérant ce soir dans son duel notamment face à Alexandra Popp, la star de l'équipe allemande.
Ouais, grande voyageuse, la lyonnaise, hein, formée du côté de Caluire. Elle débute en 2007 à l'Olympique lyonnais, mais ne joue son premier match finalement finalement qu'en 2012. 2012-2014 comme doublure à l'OL. Ensuite ici les Moulineaux, Saint-Étienne, Marseille, retour à l'OL entre 2017 et 2018 comme doublure. Et puis ensuite voilà, la grande voyageuse, 4 ans à l'étranger, Arsenal, l'Atlético Madrid et la Juve. Et depuis la saison dernière, où elle a prolongé d'une saison supplémentaire, il lui en reste 2 chez les championnes d'Italie. Pour l'anecdote, à l'époque, quand elle part d'Arsenal à Atlético, c'était 50 000 euros le transfert de l'Atlético pardon, à la Juve. C'est un record pour le club italien. Allez, elle est chambrée par ses coéquipières. On l'appelle Hulk, la déménageuse, parce que quand elle sort, quand elle travaille, ses sorties aériennes ou dans les pieds des attaquantes, eh bien elle déménage. On se rappelle, on l'a évoqué, qu'elle a été victime d'un drame personnel juste avant le début de l'Euro, qu'elle a eu un petit peu de mal à le gérer sur les premiers matchs, mais ensuite elle est montée en puissance à l'image du reste de l'équipe. Alors elle, tout simplement, elle a plus qu'un rêve, comme Wendy Renard. Elle rêve de la finale à Wembley, d'une victoire et d'entendre « We are the champions ». Pourquoi ? Parce qu'à Wembley, c'était l'ancien stade où Freddie Mercury et les Queens s'étaient produits en 86, le live à Wembley. Et pour elle, fan des Queens et de Freddie Mercury, elle a envie d'aller à Wembley et d'entendre cette musique-là. Donc voilà, pour l'anecdote, on espère pour elle qu'elle y sera dimanche et qu'en plus, ça se passera bien. Quoi.
Stephen, t'es prêt à te laisser pousser la moustache comme Freddie si jamais les
Bleus sont dedans ? J'ai le même débardeur que Freddie Mercury si jamais il faut chanter We Are the Champions pour.
Je t'imagine pas avec la moustache.
Pourquoi ?
Bah, je sais pas.
C'est souvent au mois de novembre, là, tu sais, pour Movember, là, parfois je le laisse.
Tu fais ça ?
Ouais, des fois ça m'arrive.
Ah, d'accord.
C'est juste pour le délire. Hein.
Ouais, très bien.
Pourquoi il rigole, Jeannot ?
Non.
Jeannot, il est imberbe, lui, il peut pas s'est poussé la moustache, lui.
Ah, c'est vrai. Jeannot, je l'imagine encore moins avec la moustache que toi, c'est vrai.
De toute façon, ça serait le Père Noël, alors qu'avec la moustache et un petit peu de barbichette.
Et Jeannot, juste avant d'accueillir Jérôme, supporter de l'équipe de France féminine qui nous attend au 32-16, parle-nous de la joueuse allemande qu'on va surveiller avec beaucoup d'attention et ce duel de géante qui va opposer Wendy Renard donc à Alexandra Popp, vraiment la star de cette équipe d'Allemagne. Elle a inscrit 57 buts en sélection et c'est vraiment la légende du foot allemand. Hein.
Ouais, c'est sa 119e sélection ce soir pour la championne d'Allemagne avec Wolfsburg. Brassard de capitaine, elle a 31 ans et figurez-vous que ce n'est que son premier Euro puisque l'attaquante a été blessée lors des deux dernières éditions. Elle est vainqueur des JO de 2016. Elle avait eu quelques soucis en avril 2021 et pour elle, c'était tout simplement béni des dieux que de voir ce championnat d'Europe repoussé d'un an parce qu'elle a eu une opération au genou droit. Elle est repartie. Elle a repris la compétition et elle a tout simplement relevé le défi d'être présente dans le groupe de Martina Voss-Tecklenburg, la sélectionneur de cette équipe d'Allemagne. Et en plus, juste au passage, elle est deuxième meilleure buteuse du tournoi avec l'anglaise Russo qui a marqué hier lors de la demi-finale et derrière Mead qui elle aussi a marqué avec 4 et 6 buts. Donc 4 buts pour Pop, 4 matchs, vous l'aurez compris, ouais. Efficacité à 100%, 1 but par match depuis le début de la compétition. Et en plus, elles se connaissent parfaitement bien avec Wendy Renard. Donc, ça nous donnera un match dans le match.
Et Wendy Renard, qui c'est pour moi une anomalie, n'a toujours pas marqué.
Ouais. Mais écoute, je regardais des statistiques. Oui, tu as raison là-dessus de le faire remarquer.
Il y a eu cette
je regardais les statistiques. Alors, ouais. Je mets de côté les pénalties. Elle a quand même beaucoup insisté de la tête, hein, on se rappelle, hein, oui. contre les Pays-Bas.
Face aux Pays-Bas. Elle le met voilà. Là-dessus, là. On lui donne.
Alors, l'Allemagne qui encaisse peu de buts, quand elles encaissent des buts.
Sur corner ?
C'est sur coup de pied arrêté.
Coup de pied arrêté.
Les faiblesses de la défense allemande
dans les airs.
Ont été relevées par les observateurs et les spécialistes des statistiques. C'est dans les airs. Et donc voilà, c'est peut-être là que se fera la différence pour la capitaine de l'équipe de France qui a vécu la dernière demi-finale des Jeux Olympiques de 2012, qui est là depuis la Coupe du Monde 2011, qui est la plus expérimentée, des expérimentés. Ouais. Et qui joue. Alors, je sais qu'elle aime pas qu'on dise ça, mais qui joue quelque chose de gros aussi parce qu'elle a envie d'aller en finale avec l'équipe de France. Elle a envie en tant que capitaine d'amener ses copines à Wembley et de soulever le trophée parce qu'elle en a soulevé des trophées avec l'Olympique Lyonnais. Et ça peut avoir son importance dans la désignation du futur Ballon d'Or.
Ah oui, tu as raison.
Les votes
évidemment
seront arrêtés à partir du 31 juillet.
Il est là, Jeannot.
Est-ce qu'on ferait pas un doublé Benzema ou Wendy Renard?
Ah non, parce que Wendy, ce serait pour la saison.
Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus d'année, ce sont les saisons. Donc c'est la saison 2021-2022. Ça, je te confirme qu'en Angleterre, il n'y a plus de saison. Ça fait longtemps qu'on l'a constaté.
Point, justement, avant d'accueillir Jérôme. Il y a un orage actuellement sur Milton Keynes.
Ah oui, je te confirme. Je sais même pas si je peux te dire qu'il y a des nuages. Il y a un gros nuage gris au-dessus de nous et il pleut.
Et t'as pas pu mettre ton pantacourt alors avec tes crocs.
Ah non, je ne mets pas mon pantacourt à l'Angleterre. Je le garde pour les vacances cet été.
Ouais, plutôt le caouet et le parapluie. Bon, merci Zano, on te retrouve dans une
seconde. J'ai le maillot comme en 2018 à partir des matchs à élimination directe. Je mets le maillot de l'équipe et voilà.
Donc, floqué.
J'ai celui de Wendy Renard, effectivement. Ah. Mais attention, parce que je vous vois arriver. Avec les... Non, il est. Non. Mais par contre, c'est taille homme. La coupe homme. Le XL femme, j'ai essayé, même pas la peine. Donc voilà.
C'est vrai que Wendy Renard, j'en aurais essayé, c'est pas vraiment le même gabarit.
C'est clair.
Allez, on reste là, 19h15 sur RMC. On revient dans un instant. L'Intégral Sport, on va accueillir Jérôme, supporter de l'équipe de France féminine au 32-16. Et puis on sera en direct avec une joueuse, Anthony Reich. C'est sa mission principale. Tu lui as réclamé Delphine Cascarino, Stephen.
J'y crois pas.
Allez, moi je crois en lui. Non. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
19h17 sur RMC Intégral Sport avec Stephen Brun jusqu'à 20h. Évidemment, on se concentre sur cette demi-finale de l'Euro entre la France et l'Allemagne, demi-finale de l'Euro féminin à suivre ce soir sur RMC, qui est la radio officielle de l'événement. Jeannot Rességuier est déjà dans le stade à Milton Keynes avec un orage qui s'abat donc sur place.
C'est compliqué pour effectivement sur le bord de pelouse là avec Anthony Reich. Ouais, c'est on vient de voir 2-3 éclairs là. C'était pas prévu. On avait annoncé un petit peu de pluie, mais pas un orage. Donc, mieux que ce soit maintenant qu'au coup d'envoi tout à l'heure, hein, puisque le coup d'envoi maintenant c'est dans 1h42.
Alors justement, je vous propose d'accueillir Jérôme, supporter lensois et de l'équipe de France féminine, qui nous appelle au 32-16. Salut Jérôme.
Salut l'équipe. Salut Jérôme.
Alors ça va, nous on a énuméré évidemment les forces en présence de la France et de l'Allemagne avant le coup d'envoi. C'est vrai qu'on n'est pas favori de ce match. Est-ce que tu es malgré tout confiant, Jérôme?
Alors moi je suis confiant, d'autant plus que pour moi il y a eu un déclic psychologique après les matchs des Pays-Bas. C'est-à-dire qu'on a eu du mal à passer ce cap-là des quarts de finale. Et du coup moi je pense que mentalement ça peut peut-être aussi faire la différence d'avoir passé ce cap-là des quarts de finale. Alors après on sait que l'Allemagne est favorite avec l'expérience et les titres qu'ils ont gagnés aussi auparavant et le palmarès vierge de la France. Mais pour moi l'aspect psychologique peut jouer en faveur de l'équipe de France.
T'es d'accord avec ça, Stephen, le fait d'avoir brisé ce plafond de verre?
Parce que déjà, quand le quart de finale est arrivé, nous médias, pas que nous, mais tous les médias en France, n'arrêtaient pas de répéter cette stat-là que pas du tout, que les Françaises n'avaient jamais passé ce cap des quarts de finale. Je suis sûr qu'en interne, on a dû en parler. Les joueurs sont au courant de tout ça, donc c'est une vraie pression, une vraie barrière psychologique et elle est passée. Cette barrière, aujourd'hui, on est en demi et t'as quasiment plus de pression en fait, parce que Corinne Diacre, elle avait tablé ce quart de finale. Il faut absolument passer cette barrière psychologique. Et aujourd'hui, les joueuses, elles sont en pleine confiance en disant ça y est, le quart de finale, on nous en parlera plus parce qu'on l'a fait. Maintenant, demi-finale, finale, les filles, c'est à nous, on est en confiance, ça s'est bien passé. Donc moi, je suis d'accord avec notre ami auditeur, les filles, elles sont bien.
Ouais, tu les as croisées, toi, Jeannot, hier, justement, en conférence de presse et à l'entraînement. Tu les sens concentrées mais détendues. Elles sont moins sous pression qu'avant le quart de finale, Jeannot?
Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'elles étaient vraiment. En tout cas, elles nous ont pas montré qu'elles étaient sous pression avant le quart de finale. Elles sont restées dans le même état d'esprit. Après, quand tu pénètres sur la pelouse et que tu sais que c'est un rendez-vous incontournable parce que tu perds, tu rentres à la maison, ça va être le même cas tout à l'heure. Et je pense qu'il y aura un petit peu de crispation et c'est tout à fait logique par rapport à la pression, par rapport à l'attente. Mais ce qui est important, et ce que disait à l'instant Stephen, c'est que elles se sont fixées l'objectif du 31 juillet. Elles l'évoquent en permanence dès qu'on peut discuter avec elles, notamment après les matchs en zone mixte. Elles en parlent entre elles, elles l'évoquent aussi au travers des réseaux sociaux. À chaque fois, elles disent l'aventure continue, rendez-vous Wembley. Hier, c'est Wendy Renard en conférence de presse, alors que le bus des Bleus est en train d'arriver autour du stade de Milton Keynes. Eh bien, oui, ça veut dire quelque part que elles essayent de s'enlever de la pression parce que elles sont en train d'essayer d'écrire leur histoire. Elles ont écrit l'histoire de l'équipe de France sur les 10 dernières années en retrouvant un dernier carré. Il faut qu'elle continue maintenant en écrivant encore une fois l'histoire du football français féminin en atteignant pour la première fois une finale de l'Euro, mais une finale d'un tournoi international. Mais elles continuent encore une fois d'écrire leur histoire. Et c'est là-dessus qu'elles ont vraiment travaillé depuis le 9 juin, depuis qu'elles sont, elles ont été réunies d'abord sur la, sur le, sur le, la Côte Basque et ensuite à Clairefontaine.
Jérôme, est-ce qu'il y a une joueuse que tu attends plus particulièrement ce soir ? On a parlé de Wendy Renard. Est-ce qu'il y a un élément offensif que tu veux voir briller ce soir ?
Ben, moi, j'aimerais bien l'efficacité de l'attaquante Malard. Je pense que c'est important. Je pense que la blessure de Katoto fait quand même beaucoup de mal à l'animation offensive de l'équipe de France. Mais ça aide aussi de prendre sa chance et peut-être aussi pouvoir éclore d'autant plus suite à l'absence de Katoto.
Ouais, c'est vrai. Et on peut souligner l'excellent travail depuis le début de la compétition, tout de même, des ailières Cascarino et Khalidia Toudiani. C'est la vraie force de l'équipe de France, Stéphane.
Cascarino qui fait un euro de fantastique, de très très haut niveau. J'aime beaucoup sa qualité de vitesse, sa percussion. Elle a tout en stock, elle apporte le danger sans cesse. Si la France passe la demi ou même ça s'arrête en demi, Cascarino, elle peut être dans 11 types de 7 euros, largement.
Jérôme, on te remercie. Aussi. Attends, je remercie Jérôme qui nous a appelé au 32-16 et à qui on souhaite un bon match ce soir.
Merci Jérôme.
On peut rester à l'écoute d'RMC. Ouais, Jeannot, avant qu'on accueille Bérangère Sapovic, qui nous attend.
Non, mais vous avez vu un petit peu partout, on évoquait, notamment chez nos confrères de l'équipe Delphine Cascarino, vous faites partie des gens qui la comparent un peu aussi à Kylian Mbappé par rapport à sa vitesse de pointe, par rapport à son dribble. Vous en êtes là, vous ?
Je
pose la question.
Il n'y a
aucun sous-entendu là-dessus.
Si je peux me permettre, moi je trouve que le travail de Khalidia Toudiani est tout aussi impressionnant hein, parce qu'elle aussi elle fait d'énormes différences côté droit. Cascarino c'est plutôt côté gauche, mais je mets les deux sur le même niveau, moi, pas une plus
d'un
que
côté tu as 75 sélections, de l'autre il y en a 46, donc il y a un peu plus d'expérience chez la Parisienne.
C'est vrai. Mais toujours ce petit manque d'efficacité, c'est toujours le problème. Tiens, parlons-en avec une spécialiste, une ancienne internationale, c'est Bérangère Sapovic qui est avec nous. Bonsoir Bérangère.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bon, Bérangère, c'est un gros moment pour l'équipe de France féminine. On va tenter d'atteindre la première finale internationale de notre histoire. Est-ce que, en tant qu'ancienne internationale, on est un peu tendu à moins de 2 heures du coup d'envoi ?
On est tendu même dès qu'on sort des poules, parce qu'on sait qu'après c'est des matchs à élimination directe, donc on est tendu dès la sortie des poules, donc on a passé l'écart, c'est super top. On a une demi à jouer justement ce soir. Moi je l'ai vécu en Coupe du Monde 2011.
Ouais.
C'est pas un bon souvenir d'ailleurs pour vous, non ?
Non,
quelque part
ça,
avec le carton rouge.
C'est pas vraiment un beau souvenir. Alors j'ai pas pris le carton rouge sur cette demi-finale contre les États-Unis en Coupe du Monde, mais j'ai pris 2 buts. On va pas dire que c'est essentiellement que de ma faute, mais j'en ai pris une grosse responsabilité. Mais c'est compliqué à aborder comme match, parce que même si on se dit qu'on a confiance en nous, qu'on va tout donner, qu'on sait que c'est un match à élimination directe, finalement il y a l'enjeu qui est là et qui est pesant sur nos épaules. Donc j'espère que toute l'expérience qu'elles ont engrangée depuis justement 2011, cette équipe de France, elle va dépasser cette demi, elle va battre l'Allemagne qui est quand même notre chat noir.
Ah ouais, alors Bérangère, justement, on a observé les matchs depuis le début de la compétition. Hier, l'Angleterre a explosé la Suède 4-0 pour se qualifier pour cette finale à domicile. Est-ce que vous diriez tout de même que l'Allemagne, c'est la plus grosse équipe de cet Euro depuis le début ? On le disait avec Jeannot, aucun but encaissé pour l'instant.
Ouais, c'est vrai qu'elles ont pas de but encaissé, mais moi depuis le début je voyais un Angleterre-France en finale, vous voyez, on n'est pas très loin de mon pronostic. J'en ai parlé avec des amis et j'étais partie sur ce pronostic. L'Allemagne c'est fort, ça a toujours été fort. Mais moi je vois l'équipe de France vraiment supérieure à l'Allemagne. Et pour moi, la plus grosse équipe, c'est quand même l'Angleterre sur 7 euros. Même si l'Allemagne n'a pas encaissé de but, pour moi, l'Angleterre, c'est une force.
Les Anglaises, elles sont monstrueuses. Hein.
Ouais.
Ce que j'ai vu hier, pour moi,
c'est
Allemands.
C'est
une demi-finale quand même. Hein, hier.
C'est une vraie équipe. On a l'impression qu'elles courent toutes, elles font toutes des choses extraordinaires.
Il y a l'effet à domicile qui marche bien aussi. Bérangère, on a parlé de la nouvelle gardienne de l'équipe de France avec Jeannot, hein, qui nous l'a présentée il y a quelques secondes, Pauline Perromanien. Comment vous jugez sa compétition ? Elle s'est installée dans ce but de l'équipe de France. Elle est à la hauteur pour l'instant ?
Pauline, c'est la force tranquille. Elle est là, elle paraît hyper détendue et en vrai, elle est un peu stressée au fond d'elle à chaque fois. Moi, je l'ai eu du coup en équipe de France Espoir quand j'étais entraîneur de l'équipe de France Espoir féminine. Elle est là, elle va faire son match. Et même quand on a l'impression qu'elle sert pas à grand chose, et ben en fait, elle est toujours présente avec sa défense. Et elle s'est installée déjà depuis un petit moment. Alors c'est vrai que vous la connaissiez peut-être un peu moins que moi, mais elle fait le travail et normalement elle a plutôt tendance à répondre présent sur les gros matchs aussi. Donc j'espère qu'elle sera là ce soir. Qu'elle répondra bien au rendez-vous pour pas me faire mentir. Mais c'est une gardienne avec de grosses qualités, vraiment de grosses qualités mentales, de grosses qualités aussi athlétiques, elle est explosive et tout. Donc elle est capable d'aller chercher des ballons soit sur du jeu aérien et soit aussi sous la barre sur des espèces de claquettes dont elle a le secret. Mais c'est vraiment une bonne gardienne et que j'ai hâte de voir justement exploser à ce niveau-là.
Bérangère, quand on parle des gardiens de but, de l'évolution du poste de gardien de but dans le football féminin, on évoque des jeunes communes comme Picot qui ont vraiment mis en place un travail avec leur entraîneur de gardienne respective. Pauline Perromagnin, elle a 30 ans. Est-ce qu'elle symbolise pas ça aussi, le changement un petit peu dans le travail, dans la façon d'aborder les matchs, dans le progrès qui a été fait aussi dans les prises de balles aériennes, parce qu'on sait qu'elle est très forte aussi sur sa ligne, dans la sortie, dans ses sorties dans les pieds des attaquantes. Est-ce que le poste de gardien de but n'a pas aussi progressé déjà au travers de ce que nous montre Pauline Perromagnin depuis maintenant 3-4 ans?
Ouais, ben c'est vrai que ça, le foot féminin de manière générale a vraiment beaucoup progressé. On voit des joueuses sur le terrain qui sont beaucoup plus athlétiques, techniquement, qui ont toujours été au niveau, mais qui physiquement ont pris une autre dimension avec des préparateurs physiques, des adjoints, etc. Ben les gardiennes, c'est pareil, elles ont profité d'un entraîneur de gardien compétent avec un travail complémentaire avec les prépas physiques. Et Pauline a pu profiter de tout ça. Alors elle était quand même super patiente parce qu'elle a été doublure de Sarah à Lyon, oui. Elle a joué à Marseille en D2, oui. Elle est partie aller à l'Angleterre. Je pense qu'elle a aussi beaucoup appris sur les différentes manières de travailler. Et puis elle a été patiente. Et puis on voit le résultat aujourd'hui. On a une grande gardienne. Alors c'est ce qui faisait aussi la différence par rapport au passé. Parce que moi, par exemple, ancienne gardienne internationale, je fais 1m66. Pour autant, j'ai réussi quand même à m'imposer, mais avec des caractéristiques physiques un peu différentes, avec une grosse détente et une lecture du jeu. Et là, aujourd'hui, on a des gardiennes complètes sur tout ça, justement. L'explosivité, la lecture du jeu, le jeu aérien, etc. C'est quelque chose qui a vraiment été travaillé, en plus d'aller chercher des gardiennes plutôt grandes, maintenant.
1m73, hein, Perromagnin, ouais. Contre 1m78 hein, pour Mylène Chavas, qui arrive, qui est toujours sous contrat avec les Girondins de Bordeaux, et 1m69 pour la jeune Justine Leron qui elle était en D2 à Metz mais qui ne restera pas du côté de Metz.
Bérangère, en un mot, quelle est la clé du match pour l'équipe de France si elle veut enfin accéder à une finale internationale?
Je pense qu'il faut qu'elle marque assez rapidement parce que plus elle met du temps à marquer et plus elle doute. Et même si on a des grandes joueuses derrière qui défendent très très bien, on n'est pas à l'abri du mauvais geste, du contre-temps dans la réaction et on peut encaisser un but sur une erreur comme ça. On a la percussion, on a les filles qui vont vite, vous l'avez dit, tout le monde le dit, on a des joueuses super fortes sur la percussion avec de la vitesse, donc Delphine, Khadija Toudiani, on a Selma Bacha, on a toutes les joueuses offensives, on a Clara Matteo aussi qui se met bien dans les lignes et qui arrive à trouver des passes magnifiques avec son intelligence de jeu. Il faut qu'on marque pour les éteindre en fait, ces Allemandes, parce que si on rate trop, on va leur laisser trop de chances d'espérer et, bon. Et voilà, il ne faudrait pas qu'on prenne un mauvais but.
Un petit pronostic, Bérangère?
Moi, bon, je dirais 2-0 pour la France.
Ah bah on prend, on signe. Merci Bérangère Sabovitz d'avoir été avec
de
nous.
Rien, avec
bon
plaisir,
match à
bon
vous,
match ce soir.
Évidemment. Merci. Et le seul qui n'y croit pas sur RMC, c'est Jeannot. Hein. On essaie de le convaincre, on va y arriver.
Ça.
On finit par y arriver.
Arrête avec ça.
Merci Jeannot. À tout à l'heure.
De rien. À tout à l'heure.
Tu peux enfiler le kawé. Fais attention tout de même.
Il pleut. Les joueuses allemandes viennent d'arriver.
Échauffe ta voix, Jeannot.
Ah ouais. Oui, je suis complètement à l'écart. Hein. Je vous raconterai quand même pour l'anecdote à l'occasion. Bah non, mais j'ai été, si tu veux. Allez, je le fais vite. Pour le match contre l'Italie, bah la raille, j'étais à côté d'elle et elles n'ont pas aimé. Les Belges, pareil. Les Anglaises aussi.
Donc
on m'a entendu un petit peu partout. Et donc là, ils m'ont complètement écarté à gauche de la tribune des commentateurs pour que je foute la paix.
Imagine sur raille, ils attendaient Cascarino.
Non, mais c'est ça. On ne peut plus du français, envoyez-le ailleurs. Non, mais c'est dingue.
Ils nous ont fait naviguer à Rotterdam, ouais. Et donc là, ici, voilà, on est complètement à l'écart. Mais
il va finir en haut du lampadaire, Jeannot.
Ouais, ouais, ouais. Bon, de toute façon, ça ne nous empêchera pas de faire vivre le match, ne vous inquiétez pas avec Anthony H.
Mais ta mission, c'est qu'on t'entende encore sur la rail, même si tu es loin du commentateur. C'est ça la mission.
C'est ça. Bon, j'ai la télé norvégienne à côté. Là,
ah, donc, bon, ça va. Merci, Jeannot.
Voyager.
À tout à l'heure, on aura un entretien exclusif avec une joueuse dans un instant au micro d'Anthony H. Et nous, on revient, on aura un invité. Dans une seconde, Jimmy Gressier sera avec nous, un des espoirs de l'athlétisme français. À 2 ans des Jeux de Paris en 2024, spécialiste du 10 000 mètres, il a fini 11e au Mondiaux à Eugene. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
19h32 sur RMC, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est l'Intégral Sport jusqu'à 20h avec l'immense Stephen Brun à mes côtés, légende du championnat de France de basket, un peu moins de l'équipe de France, mais bon, au moins elle est contente de l'avoir avec nous.
Tu me régales, tu vois.
Dans un quart d'heure, Pierre Roland, coureur français de BNB Hotel, l'équipe, la formation française là aussi. On reviendra sur son Tour de France compliqué, on parlera également de l'évolution de son équipe, parce que la ville de Paris s'est associée à cette équipe, on pourra parler des conséquences avec lui. Puis je vous rappelle les deux rendez-vous importants à 20h. Évidemment, l'avant-match de France-Allemagne, la demi-finale de l'Euro féminin à suivre en direct sur RMC dès 21h. Et puis, Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, sera l'invité de Nicolas Paul Orsi. Bordeaux officiellement maintenu en Ligue 2. C'est tombé ce matin et Bordeaux qui démarrera son championnat dès samedi. Stephen,
oui.
On accueille la vraie légende de Boulogne-sur-Mer. Ce n'est pas toi qui as joué deux saisons là-bas. C'est bien Jimmy Gressier, le champion de France du 10 km, qui est en direct avec nous. Salut Jimmy.
Salut à vous.
Jimmy, il n'y a pas photo, la star à Boulogne, c'est toi, c'est pas Stephen. Hein.
Ah, ça je sais pas. En tout cas, je sais que moi, je suis né à Boulogne, je suis un pur produit de Boulogne, ça c'est sûr.
Non, si, c'est toi la star.
Ouais, c'est lui la star.
Ah ouais, il n'y a pas photo.
Non, pas photo. D'ailleurs, on a un ami en commun avec Jimmy Gressier.
Ah, c'est qui?
C'est Franck Pack, le patron de Fresh Pack, qui aide la carrière de Jimmy.
D'accord.
Ah, oui, c'est ça, c'est mon partenaire.
Voilà. Ah bah voilà. Et bah, ça rapproche, voilà.
Exactement.
Jimmy, on est ravis de t'accueillir. Comment ça va déjà? Quand est-ce que tu es rentré de Eugene aux États-Unis, ces mondiaux d'athlétisme?
Bah écoute, je suis rentré la semaine dernière, mardi dernier. Ça a été très difficile le retour avec le décalage horaire, etc. Mais là, tranquillement, je suis en train de récupérer. J'ai repris l'entraînement il y a 3 jours et là, tout va bien. C'est bon, on est dans l'entraînement et dans la préparation pour Munich. Il reste 3 semaines avant le grand rendez-vous, donc ouais. tout va bien.
Ça, c'est dur, effectivement. C'est une distance ultra exigeante, le 10 000 mètres sur piste. Forcément, c'est très compliqué. Bah, faisons le bilan tout de suite de ces mondiaux. Tu as terminé 11e de cette finale avec un chrono en 27-44. Tu termines à 17 secondes du vainqueur ougandais Cheptegei. Tu visais un top 8. La course n'est pas allée très vite. Et malheureusement, tu n'as pas pu suivre le rythme effréné des cadors. Hein.
Ouais, bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le 10 000 mètres, comme vous l'avez dit, c'est une distance qui est très concurrentielle avec l'Afrique de l'Est. Donc, ce qui est difficile dans ce sport, c'est que c'est vraiment international. Et quand je dis international, il y a beaucoup de pays qui pratiquent la course à pied. Par rapport à, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est pas méchant de ma part, mais comparé à d'autres sports où il y a 25-30 pays qui les pratiquent et où l'Afrique de l'Est n'ont pas forcément accès à ces sports-là. Nous, ce qui est difficile dans notre sport, c'est que quand même il y a une concurrence internationale qui est vraiment très très difficile. Et donc, je voulais faire un top 8, sauf que le niveau mondial aujourd'hui sur 10 000 top 8, il m'amènerait à courir au minimum 26-45, 26-50, donc ce qui serait largement le record de France et qui me rapprocherait du record d'Europe d'une légende Mo Farah. Donc on va dire que je suis quand même satisfait de ma 11e place, même si j'aurais aimé un peu mieux, mais ce jour-là il fallait que je sois vraiment au top niveau pour aller chercher mieux.
C'est ce qui est très ingrat dans ces disciplines-là, Jimmy le disait, Stephen, c'est que Jimmy c'est un spécialiste du 5000 et du 10 000. Et là, malheureusement, on a l'impression qu'il y a un monde entre les athlètes européens et les athlètes africains. Il disait, il y a une densité exceptionnelle. Ça, c'est dur à vivre psychologiquement, de se dire que même au max de ses capacités, on aura du mal à lutter avec ces coureurs-là.
Ouais, c'est difficile à vivre. Et encore, parfois, t'as aussi des gens d'Afrique de l'Est qui, eux, dans leur pays, ont trop de concurrence et décident de prendre un passeport européen. Donc ça complique encore plus la tâche. Mais c'est d'autant plus méritant pour Jimmy. D'être à la lutte avec ces garçons-là. Jimmy, après ta course, t'as tenu des propos en disant que t'étais déçu, que la course minima t'avait pris de l'influx nerveux. Est-ce que tu peux bien m'expliquer, parce que je comprends pas comment cette course minima peut justement diminuer ta performance, a pu t'impacter ta performance à Eugene.
En fait, c'est pas spécialement moi que ça a impacté, on va dire, C'est plus en fait, on va dire,
En fait, Jimmy, tu regrettais de ne pas pouvoir être accompagné par un autre coureur français qui n'avait pas atteint les minima qui avaient été très élevés. Hein, je précise juste que.
En fait, ouais, c'est plus ce qui s'est passé ces derniers mois sur les réseaux sociaux, les conversations qu'il y a eu, les tweets, etc. qu'il y a eu, qui ont fait que moi j'ai pris position pour les athlètes qui ne sont pas qualifiés mais qui ont fait les minima World Athletic et qui avaient le niveau d'être là. Et en fait, c'est vrai que moi ça m'a touché parce que moi j'ai eu la chance de faire les minima peu importe les conditions et d'être présent ce jour-là. Mais c'est vrai que ce jour-là, si j'ai pris position, c'est plus pour eux que pour moi, parce que moi directement ça m'a pas touché. Mais par contre, le jour où j'ai tenté les minima sur 10 000 mètres à passer, ça s'est pas passé comme prévu. Le lièvre devait m'emmener 7 km, sauf qu'au final il m'a emmené 2 km et ce jour-là, si je fais pas preuve de caractère et si je sors pas la course ce jour-là, je fais pas les minima. Et ça veut dire que derrière, on me redemande de refaire un 10 000 pour me qualifier au championnat du monde. Et refaire encore un 10 000, ça m'aurait complètement détruit. Et en fait, quand j'ai parlé des minima, c'est qu'en France, les minima World Athletic, ils sont très, très simples. C'était les minima pour aller aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année dernière. Et là, on les a encore abaissés de 4 secondes. Donc en fait, j'ai parlé des minima parce que au début de l'année, ça nous met quand même le stress. Parce qu'il faut savoir que les minima en soi, 13-13-50 de l'année dernière, je les avais fait aux Jeux Olympiques. Et il y a des pays qui qualifiaient déjà leurs athlètes avec les minima des Jeux Olympiques de l'année dernière. Pour cette année, donc ces athlètes-là, ils ont pu se préparer convenablement, tranquillement, et préparer uniquement ce championnat. C'est-à-dire, ils ne se sont pas dit, on doit être en forme au mois de mai, mois de juin. Non, ils se sont dit, on doit être en forme en juillet. Donc du coup, ils ont pris le temps de se préparer. Voilà. Et forcément, quand on arrive au championnat, ben, ce n'est pas le même état de fraîcheur.
Et tu n'as pas la pression de te dire, il faut absolument que j'atteigne ce chrono. Tu ne peux pas te concentrer uniquement sur la grande échéance qui arrive. Donc tu arrives forcément un petit peu usé physiquement et mentalement. D'ailleurs, on pense à Hugo Hay, d'ailleurs, qui est un de tes amis et qui est lui aussi engagé sur ce type de distance. Est-ce que tu regrettes ça, justement, d'avoir été le seul Français à ce niveau, de pas pouvoir réaliser une course d'équipe? Parce que ça aussi, c'est important, avoir un équipier sur lequel tu peux compter pour construire ta course aussi au moment du 10 000.
On va dire que moi, sur le 10 000, il y a personne d'autre qui avait fait les minima cette année. Donc dans tous les cas, j'aurais été tout seul. Mais moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que avec Hugo, on a prouvé chez les jeunes, notamment en cross. On allait chercher des médailles en cross, des médailles par équipe. Et on parlait de nous comme la génération dorée. On était contents de dire que c'était la génération dorée, la future génération pour plus tard. Et moi, quand je vois que Hugo fait les minima World Athletic et pas les minima de la Fédé et qu'on ne l'emmène pas parce qu'on dit qu'il n'est pas potentiellement médaillable, entre guillemets, ça m'énerve un peu parce qu'on ne peut pas savoir avant la course ce qui va se passer le jour J. D'ailleurs, Hugo, l'année dernière, contrairement à moi, honnêtement, il n'a pas eu de chance parce qu'on était aux Jeux Olympiques tous les deux. Il était dans la série 1, la série qui était la plus dure parce que la série 1 se court généralement à la place et la série 2 généralement se court à la place mais aussi au chrono.
Oui, parce que tu sais ce qu'ont fait les autres, donc exactement. Tu sais quel temps tu dois réaliser.
Exactement. Et Hugo, l'année dernière, il n'avait pas le choix que de battre pratiquement les 5 meilleurs mondiaux pour être en finale. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer, gérer ma course en fonction du chrono aussi derrière. Mais si j'étais dans la série 1, c'est ce que j'ai expliqué à plusieurs personnes, je serais peut-être pas passé en finale et Hugo serait passé en finale. Et en fait, on peut pas savoir avant la course comment ça va se passer. Et c'est surtout que si on dit que Hugo est plusieurs fois médaillé chez les jeunes, etc., n'est pas capable de jouer des médailles au niveau mondial, en fait, les jeunes derrière nous qui prennent comme exemple, ils restent plus, en fait. Et on leur dit quoi? On leur dit t'es pas capable d'être dans le top 16 mondial, reste chez toi et puis fais de la télé loisir.
Alors, Jimmy, justement, évacuons ce sujet des mondiaux. Voilà, tu les as terminés à la 11e place. Projetons-nous, parce que l'été est chargé pour l'équipe de France d'athlétisme, vers les championnats d'Europe à Munich. Ce sera à la mi-août, à suivre sur RMC, évidemment. Là, il n'y a pas de question à se poser. Tu vises clairement le titre européen.
Oui, on va dire que depuis le début de l'année, c'est dans le viseur. C'est l'objectif principal. Je veux gagner mon premier titre européen chez les seniors. J'ai fait médaille cet hiver en cross, mais là j'ai vraiment envie de gagner. Et on a de la chance, on va dire que j'ai un peu de chance, parce que sur cette discipline, pour l'instant, il n'y a pas encore l'ovni Jacob Ingebrigtsen sur cette distance. Donc on va dire que je peux jouer les avant-postes avec notamment 3-4 concurrents qui sont à peu près de mon niveau, mais on va dire que j'ai de la chance d'être sur la ligne de départ et de pouvoir penser à gagner.
Oui, parce que le chrono importe peu sur un championnat d'Europe ou un championnat du monde, parce que ce sont souvent des courses stratégiques. C'est ce qui s'est passé à Eugene.
Ouais, 27, c'est pas exceptionnel.
T'as pas couru très vite, mais en revanche, quand ça accélère très fort. C'est ça qui est dur à gérer pour un athlète aussi, Jimmy.
C'est ça, exactement. C'est que ça court en fait, ça court par à coup. Des fois, ça fait une 7, des fois, ça fait une 3, etc.
Au 400 mètres,
oui. Ce qui fait la différence, c'est que les Africains, ben, ils arrivent à gérer ces allures-là parce que déjà, on va dire que sur une course rapide, ils ont 25 à 20 secondes de marge. Et ben, nous, derrière, on a moins de capacité à accélérer. C'est surtout que ben, dans le dernier 2000, ouais. J'ai pas regardé combien ça
fait. C'est long, 2000, hein. 5 tours de piste.
Mais Jimmy, à Munich, c'est toi qui vas gérer la course. C'est toi le patron. Ouais,
c'est ça, exactement. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est ce que j'ai dit à mes coachs. C'est que j'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui court devant et qui vibre à courir devant et qui aime faire le spectacle, qui aime attaquer, qui aime mettre des attaques, etc. Et là, au monde, je suis frustré. Je prends jamais de plaisir parce que, bah, en fait, je cours derrière et moi, j'aime pas ça. C'est pas moi, en fait, de courir derrière. Mais j'ai pas le choix parce qu'au championnat du monde, je vais aller devant, ouais, c'est bien, sauf qu'une fois que ça accélère, ben, en fait, je peux rien faire. Donc, ça sert à rien de faire le kéké, d'aller devant, et après d'exploser. Et en fait, je pense qu'il me faut juste du temps, un bon accompagnement, et j'espère qu'un jour, j'y arriverai à être sur le devant de la scène. Mais on va dire que j'ai pas choisi, comme je le disais tout à l'heure, la plus facile des distances.
Alors, justement, Jimmy Gressier, qui est un des espoirs de l'athlétisme français, qui est en direct avec nous. Dans deux ans, il y a les Jeux de Paris en 2024. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es arrêté? Tu sais quelle distance tu vas courir à Paris? Quel sera ton objectif ou c'est encore un peu flou?
Bah, l'objectif, c'est de doubler le 100 000 et le 10 000 mètres.
Le 5 000 et 10 000, ouais.
C'est ça. Généralement, il y a à peu près 5-6 jours d'écart. Et moi, j'ai, on va dire, la capacité de faire les minima sur 5000 et sur 10000. Donc, on va dire que j'aurai le choix. Après, il faut aussi voir les Français qui ont fait ces minima aussi ce jour-là.
Enfin, eh oui, évidemment. Matin. Parce que on décèle chez toi déjà des qualités qui pourront faire un marathonien de top niveau. Donc ça, j'imagine aussi que c'est dans un coin de ta tête. Passer ensuite sur marathon, parce que tu es tout jeune, hein, tu as tout juste 25 ans, donc tu pourras penser à ça après, quoi.
Ouais, non, mais c'est exactement ça. On va dire que sur les longues distances et surtout sur la route, j'ai des capacités. Je me rappelle des 10 km de Boulogne, des championnats de France cette année où je fais 27-41 tout seul. Alors, j'étais pas en très très grande forme à l'entraînement juste avant. J'étais en train de faire les travaux dans mon appartement pendant 4 semaines et je suis allé courir et j'ai couru assez vite. Donc, je pense que la route, c'est vraiment un atout pour moi et c'est là où je me sens vraiment libre, où je pense pas au tour, je pense pas au chrono et que je cours comme en cross. Et on va dire que ouais, sur les longues distances, c'est là où je me sens le mieux. Et d'ailleurs, à partir de l'année prochaine, je pense que je ferai mon premier semi-marathon sur la route.
Jimmy, en tout cas, quand tu voudras passer sur marathon et que tu voudras prendre un peu de cardio, je viendrai, on fera un petit tennis au TCB, ce qui paraît que tu tâtes la raquette aussi. Hein.
Ah, ça marche, pas de souci. On va dire que j'ai plus les baskets entre guillemets que la raquette, mais j'adore jouer.
Jimmy passait par le foot, hein, qui était footballeur plus jeune, hein, évidemment. D'ailleurs, Jimmy, je t'invite à débriefer les Europes dans le podcast RMC Running. Tu seras le bienvenu avec ton ami Johan Durand. Tu pourras venir débriefer tout ça. Okay,
avec plaisir.
Surtout si tu es champion d'Europe.
Ah, évidemment.
J'espère ramener la médaille.
Ouais. Merci, Jimmy. À bientôt. Bonne soirée. On espère te voir en or sur la plus haute marche du podium au championnat d'Europe à Munich. D'ailleurs, je vous rappelle, vous qui êtes fan de course à pied, le magnifique cadeau et le magnifique défi qu'on vous lance pour la rentrée, toute l'équipe d'RMC Running, on vous offre un dossard pour le marathon mythique Nice-Cannes.
C'est un cadeau, ça, vraiment.
Le 30 octobre. Cadeau parce que
tu me l'offres, c'est pas un cadeau, je te le dis moi.
Oui, mais écoute, t'as qu'à t'y mettre un peu la course à pied, j'arrive pas à te lancer là-dedans.
Imagine un grand 2m02 sur 10 kilos.
Et pourquoi pas. On vous offre donc le dossard, on vous offre la préparation personnalisée et la tenue RMC Running. On recherche 4 profils différents, 2 femmes, 2 hommes. Vous pouvez vous inscrire sur nos réseaux sociaux, vous y allez, il y a un formulaire à remplir. Twitter, Instagram et le club RMC Running sur Strava.
C'est avec qui la prépa?
On vous attend. C'est avec Johan Durand, justement.
Je crois que c'est avec toi.
Non. Moi, je reste humble ou à mon petit niveau. 19h46, tiens. Exclusivité RMC, on vous le disait. Anthony Reich, Hamilton Keynes qui a croisé une joueuse de l'équipe de France. On est à 1h15 de la demi-finale de l'Euro entre la France et l'Allemagne. Anthony Reich a eu la chance de s'entretenir avec la milieu de terrain Grace Guillereau. Écoutez.
Oui, avec Grace Guillereau, la milieu de terrain de l'équipe de France. Grace, comment vous vous sentez aller à une grosse heure et demie de cette première demi-finale européenne de l'histoire de l'équipe de France?
On se sent bien, on se sent déterminé. On a hâte que voilà cette demi-finale puisse commencer. Voilà, on a eu une journée qui était un petit peu longue, mais aujourd'hui on a envie de bien s'échauffer pour bien commencer ce match.
Vous avez maîtrisé votre sujet en quart de finale face aux Pays-Bas. Énormément d'occasions ce soir. Comment faut réussir à percer ce rideau défensif allemand, être chirurgical devant le but?
C'est ça. Ça va passer par de l'efficacité. Forcément, on le sait, il va falloir la moindre occasion, il va falloir la mettre au fond. Mais ça va passer aussi par de l'agressivité. Il y aura un combat, que ce soit au milieu de terrain, même derrière. Donc ça va être à nous d'être bien solides. Et la moindre occasion, on le sait, il va falloir la mettre au fond.
Merci beaucoup, Grâce Guillaume. Bonne demi-finale.
Et voilà, Grâce Guillaume, au micro d'Anthony Reich. On entend la pluie, hein, et oui, des conditions climatiques compliquées à Milton Keynes.
J'espère que le terrain va pas être flingué. Hein.
Tout à fait. Dans 1h13, bon, en Angleterre, on sait gérer la pluie au niveau de la pelouse, oui, a priori. Donc on verra ça. 1h13 de coup d'envoi, évidemment, de France-Allemagne à suivre dans l'after à partir de 20h. Dans un instant, Stephen, un invité, un cycliste, Pierre Roland, qui sera avec nous, va revenir sur le Tour de France, évidemment. À tout de suite.
RMC Intégral Sport, Benoît Boutron.
19h50 sur RMC l'Intégral Sport avec la légende du basket français et du basket européen, Stephen Brahm, est côté jusqu'à 20h.
Prochaine reprise de parole, la légende du basket américain.
Le meilleur joueur de l'histoire depuis Michael Jordan.
Le mec qui abuse.
Non, bon, dans 10 minutes, évidemment, on sera en direct avec Nicolas Paul-Orsi. Deux rendez-vous. L'avant-match de la demi-finale de l'Euro féminin entre la France et l'Allemagne à Milton Keynes avec Jeannot Resselli, Anthony Reich et toute l'équipe. Et puis Gérard Lopez, invité de l'after. Évidemment, on vous rappelle, c'est l'info foot de la journée. Les Girondins de Bordeaux, sauvés et maintenus en Ligue 2. Ils démarreront leur championnat à partir de samedi. Là, on accueille une vraie légende du cyclisme français. C'est Pierre Roland qui est en direct avec nous. Salut Pierre.
Bonjour à tous.
Salut Pierre. Bon, on imagine que jeune, tu as rêvé des exploits de Stephen sur les parquets français, Pierre.
Pff, voilà, honnête. Oui.
Bon, non, t'aurais pu dire non. T'inquiète pas. Bon, comment ça va, Pierre? Est-ce que tu as récupéré de ce Tour de France qui était éprouvant pour toi, malheureusement?
Il va me falloir un peu plus que 2 jours et demi, là, honnêtement. Ah ouais. Il va me falloir quelques jours encore. Je suis encore un peu malade, pour être honnête, et ça a vraiment du mal à passer. Ouais.
Est-ce que c'est une frustration que tu gardes parce que au bout d'une semaine, tu es tombé malade et t'as jamais vraiment pu t'en remettre, hein, Pierre?
Oui, bah là c'est vraiment un tour très frustrant parce que j'ai jamais pu m'exprimer à aucun moment de la course. Enfin voilà, j'ai attendu avec impatience les Alpes. Donc déjà c'était long parce qu'il y avait une dizaine de jours un peu à patienter. Je suis tombé malade et voilà, sur le tour c'est très très compliqué de récupérer. Et voilà, j'ai souffert honnêtement. Je sais à l'heure actuelle, je me demande comment j'ai fait pour réussir à terminer, tout simplement.
Ah ouais, c'est le pont interminable du Danemark qui t'a fait mal. C'est le coup de vent, là, ça t'a tué.
Ouais, j'ai pris froid sur le pont et le vent était de face et pas de côté. Donc, du coup, ouais, on a pris froid là. Mais non, je m'en serais bien passé, honnêtement.
Ah ouais, c'est ce qui nous a manqué. C'est ce qui nous a manqué entre deux siestes, le fameux attaque de Pierre Roland. On l'a pas eu cette année. Donc, pour toi, la grande satisfaction, et j'imagine que malgré tout, t'aurais voulu faire mieux, mais la grande satisfaction, c'est j'ai enfin terminé ce Tour de France dans des conditions compliquées.
Ouais, bah après, à un moment donné, dans les Pyrénées, j'ai bien compris que je peserai à aucun moment sur l'épreuve, quoi, sur aucune des étapes, et voilà, c'était terminé, quoi.
On pense à l'abandon un peu ou non?
Ah, honnêtement, oui, parce que une étape, l'étape en Suisse, quand j'ai commencé à être malade, je me suis fait lâcher au bout de 5 kilomètres tout seul sur le plat. Voilà, ça a été l'enfer, et tous les collègues avec qui j'étais, qui traînaient en queue de peloton, ils ont abandonné un par un, donc je me suis dit mathématiquement ça va être mon tour. Mais c'est le Tour de France, quoi. Je veux dire, si on n'est pas dans l'ambulance, on se doit d'aller au bout chaque jour en ayant une lueur d'espoir que les planètes se réalisent. Alors, mais voilà, Pierre, on s'accroche à ça.
Justement, c'est le tour le plus rapide de l'histoire. La moyenne de vitesse, c'est plus de 42 km/h.
C'est de la faute de Wout van Aert. Au bout de 2 km, ouais, il partait déjà.
Ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Il a explosé la concurrence. Ils étaient 3 au-dessus du lot. Mais tu l'as ressenti que ça roulait beaucoup plus vite que les années précédentes, toi qui as pas mal d'expérience déjà?
On sent qu'il n'y a pas de temps mort. C'est ça. Après, on sent que ça roule plus vite, plus longtemps, plus régulièrement, et que c'est surtout ce qui fait baisser la moyenne, ces temps morts et puis ces étapes des fois qui peuvent être un peu tronquées parce que vent de face, parce
les journées de transition,
là,
quoi.
Ouais. Intéressant, voilà, il n'y a pas eu de transition, donc ça a maintenu un rythme élevé. Et après, il y a quand même un phénomène qui est à prendre en compte, c'est qu'on a eu 80% des étapes le vent dans le dos, quoi. Et voilà. Du coup, ça nous a, voilà, il n'y avait pas une journée où on allait se dire, ah bah là, aujourd'hui, il y a vent de face, il ne va rien se passer dans la course parce que personne ne va vouloir aller devant parce que vent de face et ça va bloquer la course. Et on a eu quatre, je crois, à part les deux étapes au Danemark, on a eu quasiment tout le temps le vent dans le dos.
Ce tour a été marqué par trois extraterrestres, évidemment. Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard qui a remporté son premier Tour de France et Stephen Lady, Wout van Aert qui a été vraiment le grand artisan. C'est vrai que les gens retiennent quasiment plus Wout van Aert que le vainqueur.
Alors, qu'il a fait Vingegaard quand même.
Hein. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il a remporté le maillot vert, le super combatif, il a remporté trois étapes. Est-ce que dans le peloton, vous l'avez senti justement cette domination totale de la Jumbo Visma et le fait que ces trois coureurs étaient bien au-dessus du lot?
Oui, il y avait trois coureurs qui étaient plus forts et enfin il y avait un coureur qui était plus fort, c'était Pogacar, et après il y avait une équipe qui était au-dessus, c'était la Jumbo Visma par leur collectif, par les individualités qu'ils avaient avec.
Donc pour toi individuellement, c'est Pogacar qui était le plus fort au-dessus de Vingegaard.
Pogacar non, parce que sinon il aurait gagné, mais il a été ils ont réussi à l'avoir à un moment avec une stratégie collective sur l'étape du Granon. Ils l'ont isolé, ils lui ont fait sa fête collectivement. Quoi.
Ouais, c'est au col du Granon qu'il a craqué, on le rappelle, Pogacar.
Oui. Donc c'était la deuxième étape des Alpes. Ils ont vraiment mis le curseur collectivement très très haut et ils ont réussi à faire basculer la course à ce moment-là. Et puis après, bah, voilà, une fois que t'as deux minutes d'avance et que collectivement t'es plus fort, enfin, ils ont eu plus qu'un peu à gérer, quoi.
Pierre, est-ce que quand on est coureur français qui plus est dans une équipe française et que ce tour au fur et à mesure qu'il avance et qu'il n'y a toujours pas de victoire d'étape française, est-ce que ça discute entre coureurs français en disant est-ce qu'on va le faire? Est-ce que de les briefings de Jérôme Pinot notamment dit bon il faut absolument qu'un Français gagne une étape ou bah non finalement
c'est non pas bah honnêtement nous dans notre équipe on a un Autrichien et un Italien. Et honnêtement, si sur les Champs-Élysées, c'est mon sprinter italien qui gagne sur les Champs-Élysées, honnêtement, je serais plus content que si c'est un sprinter d'une autre équipe.
Christophe Laporte qui gagne, ça n'a pas fait grand-chose, quoi.
Non, ça m'aurait pas fait grand-chose, mais voilà, parce qu'on court en équipe de marque, on court pas en équipe nationale. Donc automatiquement, on représente notre sponsor, nos clubs. Et voilà, c'est pas, il y a peut-être, il y a le public qui pense, les médias nous le font penser, mais c'est vrai que nous on n'est pas attaché vraiment à ce côté patriote quand on est du moins en équipe de marque.
Pierre, on a deux questions importantes à te poser. Déjà, celle de ton futur. Tu as dit que tu serais au rendez-vous au départ du Tour de France l'an prochain. Est-ce que tu peux nous le confirmer? Déjà, c'est ton ambition de retourner sur les routes du Tour?
Oui, c'est mon ambition de retourner sur les routes du Tour parce que j'ai 35 ans, je vais avoir 36 ans. Ça aurait pu, ou ça peut, parce que l'avenir, c'est pas moi qui vais décider l'année prochaine si je serai au départ ou pas. Mais en tout cas, j'ai envie de retourner au Tour. J'ai envie de refaire un Dauphiné comme j'ai pu faire cette année.
Ça fait mal à point.
Parce que voilà, j'ai pas envie de terminer sur une note comme ça où j'ai pas pu m'exprimer, où on n'a pas cité une seule fois mon dossard. C'est juste pas concevable. Donc voilà, ma décision, elle était prise au soir du Dauphiné que je voulais continuer ma carrière et Jérôme m'a accompagné dans cette démarche.
Et Pierre, justement, c'est l'actualité. B&B Hotel KTM devrait changer de dimension la saison prochaine. On a appris donc le partenariat avec la ville de Paris qui se met en place pour 2023. On parle également d'un sponsor d'envergure qui pourrait injecter pas mal d'argent. Est-ce que vous en parlez déjà entre vous? Il y a des rumeurs de transfert, notamment Marc Cavendish qui pourrait, pourquoi pas, intégrer l'équipe. Est-ce que vous êtes prêt à ce changement de dimension? Est-ce que ça va changer quelque chose pour toi?
Pour moi, ça va changer beaucoup de choses parce que forcément, mes équipiers, l'équipe va évoluer, il va y avoir une autre dimension, on va peut-être me demander d'autres choses que ce qu'on me demande actuellement. Mais voilà, l'équipe, elle avait besoin de ça, d'un grand partenaire qui va attirer d'autres grands partenaires. Et voilà, la ville de Paris va nous aider à faire grandir l'équipe, à nous développer et on l'espère à gagner plein de belles courses, etc. Voilà.
Donc tu le prends comme une bonne nouvelle alors?
Ah oui, c'est une très bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. C'est voilà, l'équipe va grandir et va prendre un nouveau tournant. Voilà.
Merci Pierre Roland d'avoir été avec nous. Bonne soirée à toi, évidemment.
Soigne-toi bien.
À bientôt sur les antennes d'RMC. Et puis, on se retrouvera sur le Tour de France l'année prochaine. On l'espère.
Attaque de Pierre Roland.
Oh, tu l'as bien fait. Bravo, Stéphane. Merci Pierre. À bientôt. 19h59. Il est là, en studio. Nico Paul Orsi. C'est
slip,
sa journée.
En slip.
C'est sa fête.
Pas encore. Peut-être après la qualification de l'équipe de France.
Ah oui. Alors, qu'est-ce qui serait plus important? La qualif de l'équipe de France pour la finale de l'Euro ou alors le maintien en Ligue 2 des Girondins de Bordeaux?
Ah, je sais pas. Mais la patrie, quand même, la France, peut-être, non? Je sais pas. Ah, je sais pas.
Ah,
je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va vivre une soirée historique, en tout cas on l'espère, pour les fans de l'équipe de France, demi-finale de l'Euro contre l'Allemagne. On va la vivre en intégralité avec Jeannot Rességuier et Anthony Reich sur place, et puis un invité de marque tout de même dans l'after live. Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, sera avec nous après cette nouvelle. Bordeaux est maintenu en Ligue 2, c'est un immense soulagement. Vous restez avec nous sur RMC.